Donc, on continue un petit peu sur la même lancée que tantôt, mais cette fois-ci, on va parler de comment faire passer un message par la communication écrite. Donc, je vous présente notre prochaine conférencière qui est Mme Valérie Lemieux. Elle est formée en ergothérapie de l'Université McGill. Elle coordonne la direction, elle est coordonnatrice professionnelle à la Direction de santé publique de Montréal. Elle a travaillé quelques années comme clinicienne, a complété une maîtrise en santé communautaire, où elle a étudié le lien entre la capacité d'autogestion des maladies chroniques et l'organisation de services de santé. Elle s'intéresse maintenant à la littératie comme déterminant de la santé et accompagne des équipes du réseau de la santé et des services sociaux qui souhaitent revoir ou développer des stratégies de communication plus accessibles.
Bon après-midi. D'abord, je voudrais vraiment remercier le comité organisateur de me laisser la parole devant autant de gens pour parler de mon dada, qui est la littératie en santé. J'ai déjà fait partie d'une équipe de recherche, mais il y a déjà plusieurs années. Alors, je vais essayer le plus possible de l'adapter au contexte de recherche, mais n'hésitez pas à m'interrompre en cours de présentation pour poser des questions. Je vais pouvoir vous répondre du mieux que je peux. Je ne vais pas nécessairement reprendre ce qui a déjà été présenté par les présentateurs antérieurs, mais j'aimerais ça revenir sur certains points qui nous aident à comprendre un peu comment on peut élaborer des stratégies puis changer nos façons de communiquer à l'écrit ou à l'oral, comme vous avez vu plus tôt, en comprenant bien qui sont les gens qui ont une faible littératie puis comment ils réagissent, notamment face à l'information écrite. Les enjeux qui se présentent en contexte de recherche, entre autres avec le matériel écrit, l'environnement lettré qui joue pour beaucoup. On pense tout souvent que c'est une affaire des compétences individuelles, de la capacité des personnes, mais l'environnement aussi peut influencer les capacités des personnes. Et puis, je vais vous présenter quelques pistes de réflexion ou de solutions d'adaptation, par exemple, qu'on a déjà fait, nous, à la Direction de santé publique. Pour comprendre qui sont les gens qui ont une faible littératie en santé, je pense qu'il faut comprendre, en fait, le schéma global. Moi, j'aime bien prendre celui-ci, qui est un peu le chemin critique par lequel la littératie en santé influence, oui, les attitudes, les capacités individuelles, mais aussi les choix santé, l'observance, l'autogestion, etc. Et puis, il y a des facteurs qui sont les déterminants de la littératie en santé, puis il y a l'environnement lettré aussi. Fait que pour les déterminants, en fait, les gens qui ont une faible littératie, c'est presque tout le monde. Il y a une grande enquête menée par l'OCDE, une enquête internationale qui avait été reprise par Statistique Canada, qui nous a montré que c'était 70% de la population de plus de 16 ans qui avait des difficultés de littératie en santé. Donc, comme il y a déjà été question, là, un niveau trop faible pour être capable de gérer adéquatement l'information en santé qui leur était fournie. Les groupes les plus à risque qui ont été identifiés au cours de cette enquête-là, l'âge, c'est sûr, parce que la littératie en santé, c'est une compétence, donc qui s'acquiert, qui se consolide, mais qui s'effrite aussi avec le temps si elle n'est pas utilisée. C'est sûr que, bon, vous travaillez avec dans le réseau de la santé, donc avec des gens qui sont susceptibles d'avoir des déficits cognitifs, des déficits perceptuels aussi. Le niveau de scolarité, évidemment, le statut d'immigration, les barrières linguistiques, le contexte familial, ça c'est sûr que ça joue, les pratiques de lecture à la maison aussi, quelqu'un qui est jamais habitué de lire, puis on lui met sous les yeux un formulaire de consentement qui fait 12 pages, c'est une grande tâche que d'accomplir la lecture, puis de vraiment bien comprendre, de saisir toute l'ampleur de ce qui est écrit là-dedans. Bien sûr, les croyances, les peurs, les attitudes, on en parlait tout à l'heure durant la pause, des fois ça vient tellement teinter fortement les perceptions des gens, que ça peut bloquer la compréhension. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens qui ont plus de difficultés à comprendre l'information écrite réagissent de certaines façons. La liste qui est là, elle n'est pas exhaustive, mais disons que c'est issu d'une part de la littérature, puis d'autre part de l'expérience d'avoir travaillé avec des gens de faible littératie, d'avoir fait des focus groupes où on développait ensemble du matériel, où on testait du matériel. Et puis, souvent, les gens qui ont une faible littératie ou qui ont de la difficulté, qui sont pas habitués de gérer l'information écrite, d'abord, elles vont sauter les mots qu'elles ne connaissent pas. Elles vont rarement poser la question pour savoir, ben, le mot, une cardiopathie, qu'est-ce que c'est? Elles vont tout simplement le sauter en disant, ben, ce mot-là, je le comprends pas, donc il est pas important. Souvent, ils vont perdre le sens d'une phrase après 12-15 mots. C'est-à-dire, ça s'applique beaucoup aux gens qui ont un très faible niveau de littératie, donc qui ont un niveau d'alphabétisation qui est plutôt bas. Ils lisent tellement lentement que par la fin d'une longue phrase, ils ont oublié les mots qu'il y avait au début parce que la rythmique d'une phrase est importante dans la compréhension. Puis si on lit du mot à mot, puis je vous mets au défi de lire très, très, très lentement là une phrase de 18-20 mots, vous allez voir que c'est difficile de faire un sens global. Donc souvent, après 12-15 mots, la rythmique est perdue, puis le sens du message qui voulait être véhiculé aussi est perdu. Souvent, elles prennent les mots, les expressions au pied de la lettre. Donc, les allégories, le deuxième degré, le deuxième sens, c'est souvent pas perçu ou moins facilement perçu. Et souvent, elles vont pas prendre le contexte d'un message. Donc, en lisant phrase par phrase, c'est plus difficile de faire des liens entre les idées. Chaque idée ou chaque phrase va être comprise hors du contexte global. Et puis finalement, et ça je pense que c'est le point le plus majeur, c'est pas écrit dans le front de personne, j'ai de la difficulté à comprendre. Souvent vous allez avoir des commentaires, « Ah, je suis fatiguée, j'ai pas mes lunettes, je vais lire à la maison », ou les gens vont avoir l'air absents, pas réceptifs, mais souvent ça c'est des signes que les gens comprennent pas bien. Mais c'est rare que les gens vont se présenter pour le stigma que ça amène, « Bonjour, moi j'ai de la difficulté à lire, à écrire, à comprendre ce que vous me dites ». Dans un contexte de recherche, en fait, les enjeux de littératie en santé ou de faible littératie vont être différents d'un contexte à l'autre. Par exemple, moi, en santé publique, c'est dans un contexte populationnel. Donc, quand on élabore des messages, on les élabore pour l'ensemble de la population. Alors, il faut s'assurer que le dénominateur le plus faible puisse aussi le comprendre. Dans le contexte de la clinique, c'est un petit peu différent parce que là, c'est souvent de l'individuel. On veut que la personne, elle comprenne bien l'objectif de la thérapie, du traitement, puis on veut aussi faciliter l'observance. Dans le contexte de recherche, puis là, je vous permettrai de compléter avec vos expériences, là, mais souvent, je pense que déjà, à la base, les gens qui, par exemple, ont passé par le clinique, puis entrent dans une étude, ils peuvent avoir de la difficulté à distinguer, ça c'est un clinicien, ça c'est l'agent de recherche, c'est quoi le lien entre les deux? Fait que je pense qu'il y en a été question plus tôt. Il faut faire cette distinction-là, c'est vraiment important pour la compréhension puis tout le reste du processus dans le fond. C'est une situation qui est peu familière, c'est souvent très intimidant juste d'avoir un problème de santé, ça occasionne beaucoup de stress, d'avoir en plus l'idée de rentrer dans un processus où on fait partie d'une recherche, où là il y a des protocoles à respecter. Ça aussi, c'est très intimidant, puis ça peut venir diminuer la compréhension. Les questionnaires standardisés, ça pour l'avoir vécu, je sais que c'est une contrainte. Souvent, on essaie d'avoir un devis robuste, alors on va chercher un questionnaire qui est validé, qui est standardisé, avec peu de possibilités de changer les mots pour faciliter la compréhension, surtout quand c'est une entrevue, par exemple, téléphonique. Là, on a un questionnaire à passer pour les agents de recherche ou pour les intervieweurs. Ça, souvent, c'est problématique. Puis ça peut même venir teinter la validité des données parce que les personnes peuvent répondre aux questions sans tout à fait avoir compris le sens de la question. Ça, on l'a déjà vécu dans un projet de recherche. Puis c'est sûr que quand on parle de recherche, puis d'enjeux de compréhension puis de littératie, le formulaire de consentement, c'est aussi un enjeu important. C'est souvent très jargonneux au sens où c'est des mots techniques. Pis ça, je pourrais revenir un petit peu plus loin avec un exemple d'adaptation. C'est un enjeu qui est, ça fait pas très longtemps qu'on parle de littératie en santé, là, c'est un concept qui est encore émergent. C'est beaucoup poussé par la santé publique, puis là on voit qu'on en parle de plus en plus, mais dans les faits, ça fait longtemps qu'on est préoccupé par les enjeux qui sont de la compréhension des gens à l'égard des messages qu'on leur passe, puis entre autres dans un contexte de recherche. Là, je dis il y a 25 ans plus tard, mais en fait il y a 35 ans. Dans le fond, le Journal of the American Medical Association publiait déjà que au terme d'une analyse des formulaires de consentement, ben le niveau de lisibilité était à peine inférieur à celui d'une publication médicale. Donc, ça en dit long sur la difficulté de compréhension. Et puis, ben on voit que 35 ans plus tard, malheureusement, les connaissances là-dessus ont peu avancé parce qu'une revue systématique récente concluait encore que on a peu d'évidence pour développer des nouvelles interventions pour faciliter le processus de consentement éclairé. Mais on va quand même essayer de, je vais essayer de vous donner des pistes de solutions. Puis je pense que c'est un, c'est vous qui êtes issus de la recherche, je pense que c'est un domaine qui pourrait être, qui gagnerait à être davantage exploré. Je commence avec certaines pistes de réflexion avant de rentrer dans, disons, le vif du sujet, là, avec ce qu'on a élaboré, nous, comme principe de précaution en littératie en santé. Et je vous les lance comme ça pour que vous les ayez en tête pour le reste de la présentation. La communication que vous utilisez, est-ce qu'elle sert uniquement à remplir une obligation éthique? Donc, ça a été signé, c'est fait, c'est une étape qui est obligatoire dans le processus de recherche. Ou est-ce que c'est vraiment un processus où il y a un consentement éclairé ou une collecte de données? Souvent, des fois, c'est une étape, puis comme c'est une étape obligatoire, ben on la gère comme telle, mais je pense que c'est une étape qui est fondamentale pour tout le bon déroulement de la recherche. Est-ce que l'information est trop détaillée, trop technique, trop précise des fois pour les participants? Puis là, je mets la balance parce que c'est toujours un enjeu de compréhension puis de précision. Puis souvent, nous, on veut être très précis, trop précis. On a le syndrome de j'ai peur d'en oublier. On en dit trop, puis les messages principaux se perdent dans l'espèce de mare de bruit que ça crée. Puis quels moyens peut-on prendre pour s'assurer que le message est clair? Ben, c'est les diapos qui suivent. Quand on parle d'environnement lettré, en fait, c'est tout, ça va des signes de navigation dans l'hôpital pour dire tel département est à telle place, le laboratoire est à telle autre place, jusqu'à un document très détaillé comme un formulaire de consentement ou une brochure ou une publication. Donc, l'environnement lettré. Les erreurs recensées les plus fréquentes, c'est celle-ci. J'ai essayé de faire un espèce de listing des top 10, là. La surutilisation de l'information écrite tout à l'heure, vous avez une belle présentation sur la communication verbale, puis on avait cette discussion-là tout à l'heure dans la pause, fait que je vais en profiter pour reprendre le même exemple. Le consentement éclairé, des fois, les formulaires sont très, très longs, puis on donnait l'exemple, en néonatalité, par exemple, un enfant qui naît très prématuré, c'est pas en recherche, là, c'est en intervention, mais le consentement des parents, souvent, va être obtenu de façon verbale, puis on passe d'un formulaire de 12 pages ou 15 pages ou 40 pages, des fois pour un formulaire de consentement pour la recherche. Puis là, on est capable d'expliquer les messages puis la teneur de la décision en quelques minutes à des parents. Fait que des fois, je pense qu'on pourrait se questionner sur est-ce que toujours utiliser l'écrit, c'est la meilleure façon de communiquer toute l'information. Trop d'informations transmises à la fois, je l'ai dit tout à l'heure. La disposition inadéquate de l'information, je vais y revenir, mais des fois, je pense qu'on aurait intérêt à mettre de l'avant les messages qu'on veut vraiment passer. Il y a des façons de formater un document pour faire ça. Une information importante qui est souvent éparpillée. Il y a une information importante un petit peu au début, un petit peu dans le milieu, puis un petit peu à la fin, alors que les données montrent qu'un lecteur moyen va lire le début puis la fin d'un document. Souvent un jargon médical ou un vocabulaire qui est trop technique ou trop difficile, un style complexe ou fantaisiste, l'usage de synonymes qui portent à confusion. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est une brochure que nous, on avait distribuée à la direction de santé publique où c'était pour le traitement de la tuberculose. Puis là, on parlait de micro-organismes, de bactéries, de microbes, d'agents infectieux à l'intérieur de la même brochure, qui était destinée, dans le fond, à des gens qui étaient suivis en pharmacie pour leur antibiothérapie. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de la santé, c'est peut-être pour cette personne-là des choses différentes. Fait que ça peut porter à confusion. Manque de considération pour les différences culturelles. En fait, c'est juste d'y porter une attention particulière et de l'avoir en mémoire. Puis, une communication qui est axée, souvent, on l'axe sur l'information, donc on informe pour informer, puis on pense pas aux résultats, dans le fond. Qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse avec cette information-là? Je donne des exemples qui sont tirés du ministère, de chez nous, en fait, là. C'est un dépliant pour les adolescents sur les boissons énergisantes. Peut-on trop en boire? Est-ce dangereux? Et comme réponse, c'est oui et non. C'est sûr que ça, pour influencer la décision, surtout d'un ado, là, ben il va bien prendre la réponse des deux qui fait son affaire. Hein, on se comprend? Puis l'autre, c'est bon. C'est tiré d'un vrai ou faux. Bon, les maladies chroniques ne peuvent pas être prévenues. Puis là, ben je vous mets juste au défi en un seul souffle de lire toute la phrase qui en découle. C'est 41 mots. C'est des mots hyper complexes. Puis aussi, c'était destiné au grand public. Là, fait que je suis pas sûre que, bon, des cardiopathies vasculaires, c'est une notion qui est facilement comprise. Donc, trêve de plaisanterie. Il existe des pistes de solutions pour les communications écrites. On a développé, nous, à la Direction de santé publique, 5 précautions. On a développé, enfin, un guide où il y a 5 précautions universelles. Ça, c'est peu importe le médium qu'on utilise. C'est les 5 éléments auxquels il faut porter une attention particulière. C'est une façon de le structurer. Là, je dis pas que c'est l'unique façon, mais ça recoupe pas mal tous les grands principes qu'on retrouve. C'est sûr qu'il y en a beaucoup là-dedans. C'est du gros bon sens, mais des fois, de se remettre les yeux devant les trous, ça c'est pas mauvais non plus. D'organiser puis structurer l'information pour guider le récepteur, activer le récepteur, ça veut dire s'adresser à son lecteur ou à son auditoire le plus directement possible, communiquer dans un style clair et simple, ça a l'air d'une évidence, mais ça ne l'est pas toujours quand on voit les résultats finaux. Valider la sensibilité culturelle du matériel. Je pense qu'on peut pas on a rarement les fonds pour faire la traduction en plein de langues ou faire plein d'adaptations culturelles dans un seul et même document, mais de le garder à l'esprit puis d'aller valider la sensibilité culturelle que notre message peut avoir. Ça, je pense que c'est déjà un très grand pas. Puis, ben là, ça, je pense que j'ai pas l'auditoire où je dois trop m'étendre sur respecter la propriété intellectuelle puis les normes graphiques, les normes de votre organisation. Quand on parle d'organiser et structurer l'information, les trois plus importants principes, d'abord, c'est ce qu'on appelle la pyramide inversée. Là, ça veut dire que les messages les plus importants, on les met toujours au début. Puis l'information qui est utile, ce qu'on dit souvent, c'est le nice to have, bien, on le met à la fin. Comme ça, si la personne ne se rend pas, bien, elle aura eu l'essentiel de l'information. Ça vient beaucoup du principe journalistique. Là, dans le fond, quand on lit un article de journal, il y a le chapeau, puis les grandes questions, qui, quand, quoi, où, comment, là, on l'a dans l'espace de 3-4 lignes. Puis le reste, ben, c'est le détail ou l'explication, la justification de ce qui a été mis a priori. Le chunking ou le morcellement, c'est que c'est toujours plus facile de lire plusieurs petits paragraphes qu'un long texte continu. De toute façon, c'est plus rébarbatif un long texte continu. Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée par paragraphe, puis de séparer les idées en paragraphes. Puis la loi de Fitt, en fait, c'est tout simplement une loi qui dit que plus la cible, elle est proche et elle est au centre, plus c'est facile de l'atteindre. Mais ça vaut aussi pour le champ visuel. Donc, dans une affiche, un dépliant, n'importe quel document écrit, si on veut attirer l'attention du lecteur sur une information plutôt qu'une autre, bien, on a intérêt à la mettre en plein centre, plus grosse, en rouge, ou en tout cas de vraiment la faire ressortir comme ça, l'œil, et mécaniquement attiré vers là, puis c'est ça que la personne va lire en premier, puis il y a des bonnes chances que ce soit ça qu'elle retienne. Activer le récepteur, en fait, ça veut dire s'adresser directement à la personne. On a beaucoup tendance à mettre des verbes à l'infinitif, alors qu'enfin, on devrait les conjuguer, puis le mettre au « vous ». Donc, adressez-vous directement au récepteur ou activez le récepteur. Un ton neutre et une forme affirmative. Je vais revenir plus tard, mais les négations, c'est souvent, on s'en rend pas compte quand on est habitué, mais c'est une gymnastique mentale. Puis pour les personnes qui sont moins habituées ou qui ont plus de difficultés de lecture ou de compréhension, cette gymnastique-là, des fois, peut faire toute la différence. Garder le récepteur actif, ça veut dire de toujours donner l'opportunité ou donner une personne ressource si la personne a des questions, mais elle peut s'adresser un nom, un numéro de téléphone ou une question réflexive pour que la personne puisse consolider un peu ce qu'elle vient de lire. Souvent, on voit ça dans les plans d'action. Là, donc, mon plan d'action, puis là, il y a des lignes où la personne peut elle-même réfléchir à ce qu'elle va faire, par exemple, en cas de crise d'asthme ou en cas de rechute du tabagisme. Fournir un numéro de contact, comme je vous ai dit tout à l'heure. Communiquer dans un style clair et simple, c'est probablement ça qui est le nerf de la guerre ou le cœur de tout ça. De donner une information qui est concrète, donc qui est en anglais, c'est ma mauvaise traduction, en anglais on dit « actionable information », donc c'est vraiment une information axée sur ce que la personne elle doit faire avec l'information. Si le récepteur se demande ce qu'il doit faire avec l'information, le message, il y a des grosses chances de pas bien passer. Ou de passer plus difficilement, où la personne ne fera pas ce qu'on avait l'intention qu'elle fasse. Un langage uniforme et des mots sans équivoque, ça c'est l'exemple par excellence, c'est un résultat négatif ou un résultat positif. pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de la santé, puis même des fois, selon le contexte, un résultat négatif, ça peut être une super bonne nouvelle. Puis des fois, un résultat positif, c'est pas nécessairement une bonne chose. Fait que ça vaut la peine d'utiliser des mots qui sont sans équivoque. Donc, vous avez ou pas une maladie, ou votre résultat a montré que, bon, vous aviez pas ou vous aviez si. Des phrases courtes et des mots courts, pour la raison que je vous disais tout à l'heure. Puis, d'éviter les statistiques brutes. C'est peut-être moins pour, quand on s'adresse, par exemple, à des éventuels ou des potentiels participants à un projet de recherche, là. C'est peut-être plus quand on communique des résultats de recherche. Nous, c'est beaucoup le cas quand on informe la population sur des problèmes de santé. Pas de statistiques brutes. Ça reste que c'est un quotient, même un pourcentage. C'est une division mentale qu'on fait. Nous, on est habitués parce qu'on a fait de la statistique, on a fait de l'épidémiologie pour certains d'entre vous. Donc, c'est comme un concept qui est acquis, mais une prévalence de 9 % pour beaucoup de gens, ça veut rien dire, versus une personne sur 10. Où là, c'est beaucoup plus clair pour la majorité des gens qui sont des néophytes, dans le fond, avec ce type de mathématiques. Valider la sensibilité culturelle, dans le fond, l'idée, c'est d'abord de réfléchir sur nos propres pratiques, puis de prendre conscience qu'on a tous des idées préconçues au niveau culturel, pas nécessairement péjoratives, mais on a tous des idées préconçues. Faut aussi prendre en considération qu'il y a certains groupes qui ont des attitudes particulières face à la santé, au bien-être, des façons de réagir face à la maladie, des croyances. À Montréal, il y a beaucoup de communautés culturelles, puis entre autres, la communauté haïtienne, dans le cadre notamment du programme québécois de dépistage du cancer du sein, il a fallu qu'on aille dans les communautés pour recenser les mythes puis essayer de les dénouer. Entre autres parce que il y avait beaucoup de voodooisme, puis il y avait une croyance que d'aller passer une mammographie, ça pouvait rendre c'est ça qui rendait les femmes malades puis qui leur donnait le cancer du sein. Fait que des fois, d'en prendre conscience puis d'aller valider de l'information sur le terrain ou d'aller valider de l'information avec vos participants des projets de recherche, ça vaut la peine puis c'est payant au bout de ligne. Et puis, quelles sont les normes de communication dans la communauté du participant ou du patient, là, selon votre contexte? Ça, je pense que c'est toujours gagnant, parce qu'après ça, il y a une meilleure réceptivité. Toujours au niveau de la sensibilité culturelle, ça, c'est plus pour des images ou peut-être des dépliants d'informations. Si, par exemple, vous avez des dépliants d'informations pour le recrutement dans vos projets de recherche, c'est sûr que des images dépourvues de stéréotypes, ça a l'air simple, mais c'est pas toujours le cas, puis je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure. Des sources crédibles pour la population visée. C'est pas toujours les mêmes que pour nous. Ça vaut la peine de porter une attention à ça, puis de les valider si on a des doutes. Des symboles reconnus, puis la signification des couleurs. Les couleurs n'ont pas toutes la même signification d'une culture à l'autre. L'exemple que je peux vous donner, c'est que le guide « Vivre mieux vivre avec son enfant de 0 à 2 ans », qui est une publication de l'INSPQ pour les jeunes mères, avait été distribué dans le territoire CRI. Et il y avait eu vraiment une fermeture complète de la communauté, puis vraiment les gens de l'INSPQ se demandaient pourquoi. Puis quand ils sont allés sur le terrain, ils se sont rendus compte que les pages étaient en mauve. Violet, mauve, c'était ça la thématique de couleur du guide. Puis dans cette culture, semble-t-il, c'est beaucoup associé à la mort. Alors les gens pouvaient pas faire le lien entre j'ai un enfant, c'est un événement heureux. Puis là on me donne un livre qui est tout en noir, ce qui a été l'équivalent pour nous finalement d'un livre en noir avec des pages noires écrites en blanc dessus là. Dans leur signification, c'était très, très fort. Donc, les auteurs du livre ont été obligés de changer les couleurs. Puis, dans le fond, l'idée, c'est d'utiliser une panoplie de couleurs pour éviter que, justement, là, qu'il y ait cet effet-là. Puis, un langage signifiant, ça va de soi. Ça retouche un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Respecter la propriété intellectuelle, je ne repasserai pas là-dessus. Je pense que vous êtes plus férus que moi, si ça se trouve, en la matière. Ça, c'est pour les précautions universelles. J'espère que ça fait du sens pour vous. C'est sûr qu'il y a différents médiums qu'on peut utiliser, puis il existe des précautions qu'on dit, précautions c'est notre façon de le dire, là, mais il y a des éléments qui sont spécifiques à chaque médium qu'on utilise. Fait que, dans le fond, si c'est du multimédia versus si c'est une page Internet, de la communication verbale comme on a vu tout à l'heure, de la communication écrite, c'est sûr qu'il y a des petites additions auxquelles il faut réfléchir. Fait que pour ce qui est des communications écrites, quand on parle de navigation, dans le fond, c'est le fait de se retrouver ou pas dans un document. Paginer un document, entre autres, c'est un outil de navigation. C'est le plus simple que je peux vous donner. Mais il y a aussi une façon de s'assurer que la personne qui regarde un document, un dépliant, par exemple, va être capable de facilement savoir ça, c'est le début, ça, c'est la fin, ça, c'est l'information importante, ça, c'est l'information qui est secondaire, puis ça, c'est mon numéro de contact, par exemple. Fait que de porter une attention à ça, ça aussi, c'est gagnant. La forme active, donc comme je disais tout à l'heure, puis axée sur ce que le lecteur doit faire, le ton affirmatif, puis le style et la taille de police, ça joue pour beaucoup. Recevoir un formulaire de consentement qui est écrit en Times 10, en soi, c'est un petit peu décourageant. En plus, on a des difficultés, on dit qu'on n'en viendra jamais à bout. Fait que des fois, ça vaudrait la peine, ça vaut le coup de faire un document qui a peut-être une page de plus, mais dont la police est un petit peu grossie. Ça facilite la lecture. Puis quand on parle d'empattement, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ça, c'est ce qu'on appelle aussi le sérif en anglais. Dans vos polices, là, dans Word, il va y avoir sans sérif ou avec sérif. L'empattement, c'est les petites lignes qui sont en bas et en haut de chaque lettre, et puis qui assure, qui facilite la lecture dans le fond, parce qu'il donne un peu des balises aux lettres. Ça a été prouvé que c'est plus facile de lire de cette façon-là. Fait que pour les documents écrits, on recommande d'utiliser une police avec empattement. Puis pour les présentations ou pour des affiches ou des gros caractères, c'est plus recommandé d'avoir une police sans empattement. Peut-être trop de détails pour que je le dise, mais enfin. Pour la communication écrite aussi, il faut tenir compte de la gravité de lecture. La gravité de lecture, en fait, c'est simple, c'est qu'en français, notre gravité de lecture, c'est de lire de gauche à droite, ensuite d'aller vers le bas, un peu comme la forme d'une lettre Z. C'est pas le cas dans toutes les langues, mais des fois, on a tendance à vouloir mettre une information là avec un bloc au-dessus, puis la suite ici et là. C'est un peu le cas dans certains magazines, par exemple. Des fois, on le fait dans des dépliants, puis souvent, les gens vont avoir le réflexe de lire de gauche à droite. Fait que là, il y a un risque qu'il y ait de la difficulté à faire le lien entre les deux paragraphes parce qu'il manque un lien entre les deux. Le micro-contenu, l'exemple que vous avez là, ça c'est un exemple de micro-contenu. Là. Ça peut être un encadré, une flèche, un bouton sur la page. Ça, c'est pour attirer l'œil du lecteur vers l'information qui est la plus importante puis la faire ressortir. Et le choix des mots, évidemment, puis la lisibilité. Je voudrais faire une petite parenthèse. Peut-être que certains d'entre vous utilisent ce qu'on appelle des index de lisibilité. Ça, dans le fond, il y en a dans Word, là, où selon un algorithme où il y a le nombre de lettres dans chaque mot, le nombre de mots dans chaque phrase, puis le nombre de, je pense que c'est de mots dans chaque paragraphe, Word est capable de donner un indice pour dire, votre texte, il est facile, moyen ou difficile à lire. Puis je mettrai un holà là-dessus parce que ça reste que c'est mathématique, alors ça prend pas en compte le jargon, la technicalité des termes. C'est strictement mécanique, là, dans le fond, comme façon de calculer la lisibilité d'un texte. Souvent, on pense qu'on peut remplacer le texte écrit par une image. C'est dans beaucoup de cas une bonne stratégie pour simplifier l'information, mais il y a quand même des règles à respecter, ou en tout cas qui gagnent à être respectées quand on utilise des images. D'abord, un style épuré ou monochrome ou bichrome. Là, je vous donne des exemples aux extrêmes, là, mais en fait, c'est pour illustrer le point. On veut recommander de faire l'activité physique 30 minutes chaque jour versus une espèce d'image qui attire l'œil, qui est plus dynamique, mais c'est difficile de percevoir le 30 à travers tous les articles de sport. Puis si on a, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, puis commence à avoir une rétinopathie ou peu importe un problème visuel, ça peut rendre ça encore plus difficile. Ou même si quelqu'un est daltonien, ça peut rendre vraiment la distinction des formes plus difficile. Quand je disais tout à l'heure d'éviter les caricatures ou les clichés, ça, ce sont deux exemples que j'ai tirés de dépliants qui parlaient aussi de l'activité physique. Je suis pas certaine que il y a grand monde grand femme qui se reconnaissent dans l'image de gauche. Aussi, c'est toujours important de mettre en contexte les images. On a tendance à vouloir illustrer, par exemple, ici c'est les glandes mammaires pour le cancer du sein, d'illustrer seulement une C-section d'une artère pour montrer un dépôt de gras, par exemple. Pour quelqu'un qui n'a pas fait des cours d'anatomie ou qui est juste pas familier avec la santé, ça prend plus d'informations que ça. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de remettre plus d'informations pour amener le contexte à une image. Tout à l'heure, je parlais de trouver l'équilibre entre la précision puis la compréhension. Ça, c'est un exemple. sur le diabète, entre quelque chose qui est très, très, très précis, c'est-à-dire quand on veut expliquer à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic, c'est quoi le diabète, d'y aller avec vraiment les images les plus précises, là, du pancréas, puis comment ça se passe, versus une image qui est très simple, qui explique la fonction, de l'insuline. C'est sûr qu'il y en a une qui est beaucoup plus précise que l'autre, mais entre les deux, il y en a une qui est aussi beaucoup plus compréhensible. D'autres exemples d'adaptation, tout à l'heure, quand je disais replacer dans le contexte, des fois, ça vaut la peine pour la compréhension de... Même de... Vous seriez surpris à quel point, si vous demandez à quelqu'un, c'est où l'estomac, c'est où le cœur, c'est où la rate. Les gens, habituellement, qui n'ont pas fait des cours, ou même les gens qui ont un moins grand niveau de scolarité, vont avoir de la difficulté. Fait que ça vaut la peine de... Par souci de pour faciliter la compréhension, de vraiment remettre en contexte. Un exemple d'adaptation maintenant au niveau culturel, ça c'est une campagne de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone. Donc, on a fait une image dépourvue de mots, et puis le dépliant qui venait avec sur le site web, dans le fond, on l'a fait traduire en différentes langues. Comme je disais, c'est pas toujours possible. Nous, ça a été possible, on a été très chanceux, mais sinon, on a vraiment fait l'effort d'avoir des images qui étaient le plus possible dénuées de texte. Comme ça, on éliminait pratiquement la barrière linguistique. Et puis, ben, quand on parlait tout à l'heure de présenter des données statistiques, on essaye le moins possible de le faire brut, mais il y a moyen de le faire simplement, puis souvent à l'aide d'une image comme ça qui montre vraiment des gens avec deux couleurs différentes. Eux, ils sont atteints de quelque chose, ou ils sont pas, ou eux, ils sont des femmes, eux, ils sont des hommes. Ça facilite beaucoup au niveau visuel la compréhension de concepts des fois qui sont difficiles à piger là, quand on parle de statistiques ou de données mathématiques là, sur une situation. Et je vous donnais comme exemple, plus de 70% des diabétiques mourront d'une maladie cardiovasculaire, une proportion deux fois supérieure à la population non diabétique. C'est pas facile à piger comme phrase. 7 personnes diabétiques sur 10 mourront d'une maladie du cœur. C'est deux fois plus que les personnes qui ne sont pas diabétiques. On a testé ce message-là, puis il y avait beaucoup plus d'impact, les gens comprenaient davantage c'était quoi le risque lié à cette maladie-là. Pardon. Quand on parle de consentement éclairé, par exemple pour participer à un projet de recherche, il y a moyen de, tout en respectant les règles de l'art, les règles de l'art, de simplifier les messages. L'exemple que je voulais vous donner, c'était la lettre d'invitation. J'ose espérer qu'il y a des femmes de 50 à 69 ans dans la salle qui ont déjà reçu leur lettre d'invitation pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein. Elle est loin d'être facile à comprendre. Elle est longue. Elle est en elle-même rébarbative. Et il faut comprendre que cette lettre d'invitation est aussi une prescription médicale qui va nous permettre de passer une mammographie gratuitement. C'est beaucoup d'informations pour une lettre pour des gens qui sont pas habitués. C'est un concept qui est nouveau, dans le fond, parce que c'est le seul programme qui fonctionne comme ça au Québec. Donc, nous, on a pris cette lettre-là, puis en faisant des focus group, on s'est rendu compte qu'entre autres, un des obstacles à la participation, c'était que les femmes comprenaient pas c'était quoi les gains ou les risques de passer une mammographie, puis ils comprenaient encore moins qu'ils pouvaient utiliser de la lettre pour s'en prévaloir gratuitement. Alors, on a diminué d'à peu près la moitié le nombre de mots dans la lettre, mais on s'est assuré de faire comprendre que c'était une prescription médicale. Puis la meilleure façon de le faire, c'était de coller dedans une prescription médicale. Puis là, c'est probablement trop petit pour que vous puissiez lire, mais en gros, on a vraiment fait l'effort de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment passer comme message pour que la femme qui reçoit cette lettre-là puisse prendre la décision ou pas de passer une mammographie dans le cadre du programme de dépistage. Puis on s'est servi autant de l'enveloppe que du verso de la feuille pour vraiment expliquer c'est quoi le cheminement, c'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices, dans un langage qu'on espère a été le plus simple possible pour pouvoir orienter la décision au final. Ça, c'est la trajectoire, une des trajectoires qu'on mettait de l'avant pour essayer d'expliquer, bon, la femme, elle va passer une mammographie, elle n'a pas nécessairement de médecin de famille, elle va recevoir un résultat qui a l'air de sortir d'une boîte de surprise, si son résultat est anormal, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, on a essayé de mettre ça sous forme d'image pour essayer d'orienter puis d'aider la prise de décision le plus facilement possible. Et puis, on a passé ça en focus group. Si vous avez l'occasion de le faire, je pense que c'est toujours une plus-value de valider les outils Et puis, on s'est fait dire que les dessins au trait, ça facilitait beaucoup, c'est plus facile à comprendre, que même le choix des couleurs, dans ce cas-ci, avait été un élément positif de réceptivité. Puis, dans le fond, ça avait été beaucoup apprécié que l'information ait été réduite au minimum, mais pas complètement éliminée. Je pense qu'il y avait un minimum qui était requis quand même pour pouvoir orienter. Quand on parle de formulaire de consentement, ça c'est un exemple. La Robert Wood Johnson Foundation a un Editing Services. C'est sûr que c'est en anglais, puis bon, c'est pas tout à fait le même contexte, mais où ils offrent des exemples. En fait, ils ont tout un site web qui est vraiment axé sur les formulaires de consentement, puis la façon de les adapter. Puis ils donnent quelques exemples, autant pour des interventions que pour de la recherche, des formulaires de consentement pour participer à un projet de recherche. Puis je voulais vous donner un exemple. Ça c'est une césarienne, là, donc c'est plus intervention, mais il y en a différentes. Exemple qui montre comment un formulaire avec pratiquement la même information peut vraiment être revampé, changer de look pour orienter le lecteur, pour vraiment lui faciliter le cheminement à travers l'information, puis pour vraiment lui pointer, dire ici c'est important. Même qu'à la fin de chaque, là je vous ai montré une page, mais à la fin de chaque page il y avait un stop. Est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'il y a sur cette page là? Donc ça c'est beaucoup une question, des fois c'est pas nécessairement une question de changer le contenu, des fois c'est une question de changer le format ou la façon de disposer l'information. Et puis autre chose, ben ça en fait c'est tiré de la revue de littérature dont je vous parlais tout à l'heure, de Marit et ses collègues en 2013, qui essayaient quand même, malgré le peu d'évidence, de faire émerger dans la littérature des pistes de solutions pour aider, puis ça c'était spécifique au formulaire de consentement pour la participation à des projets de recherche, de fournir une aide pour réviser les documents écrits. Donc ça revient beaucoup à la communication verbale. Je pense que d'avoir quelqu'un qui accompagne le consentement, c'est prouvé aidant ou efficace. Pour les questionnaires aussi, mais là je comprends qu'on n'a pas toujours les budgets pour avoir un agent de recherche pour passer des questionnaires avec tous les participants, mais dans la mesure du possible. Offrir plusieurs options pour l'intervieweur, même quand il s'agit de questionnaires standardisés, d'avoir des alternatives aux mots qui sont utilisés. Si la personne ne comprend pas, que l'intervieweur n'ait pas seulement le choix de répéter la question standardisée, mais peut-être que des fois d'avoir un mot ou deux, ça peut grandement améliorer la collecte de données. Utiliser la méthode teach-back, c'est-à-dire de poser la question, au lieu de poser « avez-vous compris? », ben, de demander à la personne pour être sûr que vous n'avez rien oublié, de redire dans ses mots ce qu'elle a compris, vous allez savoir tout de suite ce qu'elle a compris et si elle a compris ou pas. Puis, ben, mesurer, documenter le niveau de confiance face à l'information sur la santé des participants dès le début de l'étude, dans le fond, ça pourrait être une variable qu'on intègre de façon plus systématique dans toute la collecte d'informations sociodémographiques des participants. Puis je pense que ça, à terme, ça pourrait être super éclairant pour les projets de recherche puis l'analyse des données. Puis voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous aide un peu. Ça vous donne des pistes.